Vous écoutez On lit pour vous.
Des revendications claires pour les droits des communautés LGBTQ+. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 10 août 2025 dans le magazine Fugue. Comme elle le fait depuis plusieurs années, Fierté Montréal met de l'avant, pour son édition 2025, une série de revendications politiques portées au nom des communautés LGBTQ+. Ces demandes s'inscrivent dans un travail de fond mené depuis 2020 par le Conseil québécois LGBT, un organisme de référence en matière de droits des personnes LGBTQ+ au Québec, avec la participation active de ses membres, dont Fierté Montréal fait partie. Dans le cadre de sa mission, le Conseil québécois LGBT agit comme porte-voix des luttes visant à garantir l'accès plein et entier aux droits pour toutes les personnes LGBTQ+ du Québec. Les revendications rendues publiques cette année par Fierté Montréal appellent les gouvernements à poser des gestes concrets pour assurer l'autodétermination, la dignité et l'équité pour tous. Voici les revendications mises de l'avant en 2025. Financement accru des organismes 2SLGBTQIA+. Les gouvernements doivent augmenter leur soutien financier aux organismes 2SLGBTQIA+ par l'entremise des différents programmes existants. Un soutien particulier doit être accordé aux organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées et demandeuses d'asile LGBTQIA+, notamment en finançant la formation de leurs équipes d'intervention, et ce, dans toutes les régions du Québec. Reconnaissance du racisme systémique et lutte contre les discriminations. Le racisme systémique est une réalité au Québec. Malgré de nombreux rapports et événements qui en témoignent, le gouvernement refuse toujours de le reconnaître officiellement. Il est temps d'agir, de se solidariser et de s'éduquer afin de faire échec à cette injustice et de prévenir toute forme de négationnisme à son sujet. Accès universel et gratuit aux soins d'affirmation de genre. Le gouvernement du Québec doit garantir un accès gratuit et équitable aux soins et aux médicaments liés à la transition et à l'affirmation de genre dans toutes les régions du territoire, sans discrimination ni délai abusif. Interdiction des chirurgies non consenties sur les personnes intersexes. Les gouvernements doivent interdire les interventions chirurgicales génitales non consenties, qu'elles soient pratiquées sur des enfants ou sur des adultes intersexes. Ces pratiques constituent des violations graves des droits humains. Éducation à la sexualité inclusive et émancipatrice. Les gouvernements doivent financer des programmes d'éducation à la sexualité qui soient positifs, inclusifs et libérateurs, intégrant les réalités des personnes 2SLGBTQIA+. Ces programmes doivent être offerts dans toutes les écoles et développés en collaboration avec les groupes communautaires spécialisés. Soutien aux aînés 2SLGBTQIA+. Le gouvernement du Québec doit mettre en place des programmes d'accompagnement et de soutien pour les personnes aînées 2SLGBTQIA+, afin de briser leur isolement social. Il doit également reconnaître comme forme de maltraitance psychologique et institutionnelle le déni de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre dans les CHSLD et les résidences pour aînés, RPA. Décriminalisation de la non-divulgation du VIH. Le gouvernement du Canada doit décriminaliser la non-divulgation du statut VIH lorsque la charge virale est indétectable, telle que reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Plus largement, la gestion de l'épidémie de VIH-SIDA doit reposer sur des approches de santé publique et non sur le droit criminel. Gratuité des soins liés au VIH-SIDA. Que les gouvernements assurent la gratuité complète de l'ensemble des soins liés au VIH-SIDA, PrEP, PPE, bi- et trithérapie, pour toutes les personnes en ayant besoin. Actuellement, la PrEP, la PPE et les traitements anti-VIH ne sont pas entièrement gratuits pour tous. Bien qu'ils soient souvent couverts par la régie de l'assurance maladie du Québec et les assurances privées, des coûts résiduels tels que les franchises ou les honoraires de professionnels de la santé sont encore présents. La gratuité complète de ces soins, comme c'est le cas dans certaines provinces comme le Manitoba, n'est pas encore en vigueur au Québec. Décriminalisation de l'usage des drogues. Il est impératif que le gouvernement du Canada décriminalise l'usage personnel de drogues et qu'il finance adéquatement les organismes communautaires œuvrant selon les principes de la réduction des méfaits. Décriminalisation du travail du sexe. Le gouvernement fédéral doit mettre fin à la criminalisation du travail du sexe et revoir l'ensemble du cadre légal entourant son exercice, dans une perspective de respect des droits et de sécurité des travailleurs-travailleuses concernés. Solidarité avec les luttes autochtones et décolonisation. Fierté Montréal exprime sa solidarité envers les luttes autochtones et les mouvements pour la justice climatique. L'organisation reconnaît toutefois qu'elle n'a pas l'expertise ni la légitimité pour porter publiquement chacune de ses revendications. Majoritairement dirigées par des personnes allochtones, les organisations comme Fierté Montréal reconnaissent leur rôle dans le système colonial et leur responsabilité dans les injustices perpétuées envers les communautés autochtones. Elles s'engagent à devenir de meilleurs alliés et à mieux desservir les personnes bispirituelles, deux esprits. En ce sens, elles invitent les municipalités ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada à entreprendre un réel processus de décolonisation, guidé par les personnes et les communautés autochtones selon leurs priorités et leurs demandes. En 2025, Fierté Montréal rappelle donc que la fête est aussi politique. Elle demeure un espace de mobilisation essentiel pour faire avancer les droits de toutes les personnes issues de la diversité sexuelle, de genre et romantique. C'était « Des revendications claires pour les droits des communautés LGBTQ+ ». Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 10 août 2025 dans le magazine Fugue.
Le couperet tombe sur ma qualité de vie. Un texte de Bruno Gauvreau, paru le 2 juillet 2025 dans la presse. Je m'appelle Bruno, j'ai 66 ans, je suis lourdement handicapé et membre actif de l'association Sclérose en plaques Rive-Sud, ASPRS. Ne vous trompez pas, je suis heureux malgré tout. Je déambule en fauteuil roulant motorisé et avec mon super bolide, je vais dans ma rue et au centre commercial. Les gens me saluent, ils me reconnaissent. Je navigue sur les réseaux sociaux, j'écoute de la musique et je fais du jardinage avec ma voisine. J'ai même une activité de peinture. Bruno Picasso s'exprime. J'habite un appartement de 5 pièces dans une coopérative d'habitation depuis 26 ans. Je participe au CA et au fil du temps, je suis devenu ami avec les autres membres. Je suis privilégié, car de ma porte patio, je peux admirer la nature. J'ai même une cabane d'oiseaux et quelques amis à plumes. C'est mon petit coin de paradis. Pratico-pratique, je reçois des services de maintien à domicile qui me permettent de vivre chez moi malgré ma perte d'autonomie. Je vous explique. On me lève, on fait ma toilette, on m'habille, on me sert mes repas et puis on me recouche. On installe ma tubulure comme une embrasure pour que je respire mieux pendant la nuit. Tout un programme. Depuis 10 ans, Susanna, mon aide à domicile, prépare mes repas. J'ai une diète spéciale qui contribue à mon bien-être physique. Elle s'occupe aussi de la buanderie et nettoie la maison. J'ai confiance en elle. La physiothérapeute, dont j'ai bénéficié pour une durée de 8 semaines, lui a appris certaines techniques qu'elle pratique pour soulager mes contractures et maintenir ma flexibilité. Elle est là 2 fois par semaine. C'est une amie essentielle. Il y a un mois, 2 représentantes du CLSC sont venues chez moi m'annoncer des coupes dans l'octroi de mon aide à domicile. Au lieu de 12 heures par semaine, j'aurai maintenant droit à 2h15 par semaine, une coupe de 81,25%. Dans la foulée, on m'annonce que je ne pourrai plus utiliser les services de mon aide à domicile. Ils seront obligatoirement dispensés par une agence et probablement que toutes les pièces ne seront pas nettoyées. C'est jugé trop grand. Quant à mon alimentation, on me suggère de considérer les repas congelés. Je n'ai reçu aucun avis écrit préalable et eu seulement 2 semaines de préavis. Cela m'a donné un choc. Mes faibles revenus ne me permettront pas de retenir les services de Susanna. Je m'inquiète et je rencontre présentement des difficultés à dormir, car tout cela trotte dans ma tête. Combien sommes-nous à subir ces coupes, à vivre ce drame? 2 représentantes ont choisi un jour d'exercer un métier altruiste et sont prises en otage pour délivrer des messages inhumains. Et l'on s'étonne du manque de personnel en santé et de l'augmentation du nombre de congés de maladie dans ce secteur. J'aurais préféré recevoir messieurs Legault et Dubé ou encore Madame Biron pour qu'ils assument concrètement la portée de leurs décisions et prennent conscience des répercussions que leur gestion déficitaire occasionne. Je comprends que notre système de santé éprouve des difficultés, mais ces mesures sont déraisonnables, sans compter qu'elles vont directement à l'encontre des orientations axées sur le maintien à domicile prônées haut et fort par notre gouvernement. Je ne fais pas partie de ceux qui peuvent sortir dans la rue, taper sur des casseroles, mais je fais entendre ma voix pour ne pas qu'on passe sous silence ces mesures inhumaines, des mesures qui ciblent les plus démunis de notre société, et pour ne pas me sentir impuissant devant l'inadmissible. C'était « Le couperet tombe sur ma qualité de vie », un texte de Bruno Gauvreau, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.
Un logement n'est pas un privilège, c'est un droit. Un texte de Grace Tabaka, paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir. Grace Tabaka est directrice à la défense des droits des jeunes au regroupement des Auberges du Cœur du Québec, RACQ. Elle a coécrit ce texte avec Sacha de l'Auberge du Cœur L'Avenue, hébergement communautaire, et Franz et les jeunes de l'Auberge du Cœur Service d'hébergement Saint-Denis. Madame la ministre Duranceau, le 1er juillet, au Québec, c'est jour de déménagement. Nous ne voulons plus de mots réconfortants, nous attendons des gestes forts. Par gestes forts, nous entendons plus d'investissements dans les logements sociaux. Nous entendons aussi un encadrement du marché locatif pour mettre fin aux refus arbitraires et à la discrimination et une reconnaissance du rôle fondamental des ressources communautaires qui tiennent debout là où le gouvernement recule. Partout au Québec, les rues débordent de boîtes, de meubles usés, de souvenirs entassés à la va-vite. Pour beaucoup, c'est une nouvelle page qui s'écrit, mais pour d'autres, il n'y a pas de page blanche ou de porte à franchir. Pour trop de jeunes, le 1er juillet ne signifie ni départ ni arrivée, mais errance. Pas de bail signé, pas de clé, pas d'endroit à appeler chez soi. Ils et elles ont cherché, ils et elles ont espéré. ils et elles ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire, remplir des formulaires, fournir des pièces d'identité, être présentables, et puis rien. Des refus, des loyers inabordables d'un arrondissement à l'autre, des logements mal construits, mal chauffés, parfois insalubres, des chambres humides qu'il faut prendre sans poser de questions, des propriétaires qui demandent la preuve qu'on a bien fini notre secondaire 5, un garant ou une face qui inspire confiance. Et puis, il y a les arnaques, les fausses annonces et, toujours, cette peur de se faire avoir ou de ne rien trouver, confie un jeune. Dans les 32 auberges du cœur du Québec, on voit ces jeunes-là. Chaque jour, ils arrivent avec leurs sacs, parfois leur colère, souvent leur fatigue. Ils viennent parce qu'il n'y a plus d'autre option. Les auberges du cœur accueillent et soutiennent chaque année plus de 4500 jeunes. Mais derrière ce chiffre, il y a cette réalité révoltante qui est de devoir dire non. Trop souvent. Plus de 6000 demandes sont refusées annuellement, faute de ressources. C'est sans compter celles et ceux qui vivent dans des régions sans maison d'hébergement. Nous ne pouvons pas nous y habituer. Les jeunes sont incités à être résilients. Sans surprise, la résilience ne remplace pas la clé d'un logement et leur débrouillardise ne justifie pas l'abandon. Ce que ces jeunes demandent, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Le droit de vivre dans un endroit salubre, stable, sécuritaire. Le droit d'avoir un bail à son nom. Le droit d'exister autrement qu'en attendant qu'une place en ressources se libère. Un logement n'est pas un privilège, c'est une responsabilité collective. Il est temps que vos choix budgétaires reflètent enfin cette vérité. C'était « Un logement n'est pas un privilège, c'est un droit », un texte de Grace Tabaka paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir.
Né pour un gros pain? Un texte de Francis Vaille, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse. Pendant des années, les Québécois s'estimaient nés pour un petit pain, ce qui les condamnait à rester moins riches que les Canadiens anglais et à s'en satisfaire. L'émancipation les a amenés à se débarrasser de cette attitude de défaitiste avec l'espoir de combler un jour le retard de richesse. Or, voilà qu'après ce long parcours, on peut maintenant dire que les ménages québécois gagnent autant que les autres Canadiens, du jamais vu depuis des décennies. Pour être plus précis, la rémunération salariale des ménages québécois a atteint 99,1% de celle des autres Canadiens en 2024, alors que cette proportion a très longtemps oscillé entre 85 et 90% jusqu'en 2015, avant de remonter nettement depuis. Nul doute que le premier ministre du Québec, François Legault, s'en réjouira, bien que les raisons soient multiples et que la genèse du phénomène remonte à de nombreuses années. Pour arriver à une telle conclusion, j'ai passé au peigne fin les données de Statistique Canada sur les revenus des ménages qui servent au calcul du produit intérieur brut, PIB. En 2024, donc, les salariés des ménages du Québec ont touché l'équivalent de 37 300 $ par habitant, en moyenne, ce qui représente 99,1% des 37 650 $ du reste du Canada. Attention, ce n'est pas la rémunération par salarié, mais par habitant. Un ménage de 4 personnes, 2 enfants, pourrait donc gagner 4 fois cette rémunération par habitant en moyenne. Il faut voir le chiffre par habitant comme un indicateur aux fins de la comparaison. Le rapport de 99,1% de l'année 2024 est un sommet depuis 1981, l'année la plus lointaine pour laquelle Statistique Canada publie des données. Le rattrapage du Québec est éloquent face à l'ensemble des autres Canadiens, comme aux Ontariens plus spécifiquement. La remontée avec l'Ontario a débuté en 1989 et, selon les données les plus récentes pour cette province, soit 2023, le rapport de rémunération Québec-Ontario atteint maintenant 96,4%, alors qu'il était de 77,1% en 1989. L'information surprend. J'ai donc refait l'exercice avec deux autres bases de données de Statistique Canada sur les revenus des ménages qui confirment le net rattrapage depuis 10 ans. Diverses raisons peuvent expliquer l'impressionnant phénomène. L'économie du Québec s'est redressée après le retour à l'équilibre budgétaire de 2015. La vigueur du marché du travail, jumelée au taux d'activité record des femmes, grâce au programme de garderie, y est pour beaucoup. Cette vigueur, en combinaison avec le vieillissement de la population, a créé une pénurie de main-d'œuvre, avec des pressions sur les salaires. Il faut aussi admettre que certaines autres provinces ont reculé pendant la même période, notamment l'Ontario après la crise financière de 2007 et l'Alberta après la crise pétrolière de 2014. Charles Saint-Arnaud, économiste en chef d'Alberta Central, a bien expliqué la sous-performance albertaine depuis une décennie, et pas seulement à cause du pétrole, source du mécontentement alimentant le mouvement séparatiste là-bas. Le pouvoir d'achat y a reculé de 13% depuis 10 ans. Enfin, l'Ontario accueille un nombre très important d'immigrants, notamment ceux issus de réunifications familiales, conjoints, enfants et grands-parents, bien davantage qu'au Québec, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur la rémunération moyenne. Quoi qu'il en soit, les Québécois n'ont plus à rougir de la comparaison pan-canadienne à cet égard. Cela dit, malgré la remontée, les Québécois conservent encore moins d'argent dans leur poche qu'ailleurs au Canada pour payer leurs dépenses courantes, hypothèques, épiceries, etc. La base de données que j'ai utilisée sert ultimement au calcul du revenu disponible des ménages qui correspond à l'ensemble des revenus après impôts et transferts. Or, ce revenu disponible par habitant des Québécois représente 91% de celui des autres Canadiens en 2024, selon les données, après un creux historique de 83% en 2015. La progression des ménages québécois est nette depuis 2015, comme la rémunération salariale, mais sans rejoindre le niveau des autres Canadiens. Le revenu disponible, faut-il savoir, englobe non seulement la rémunération des salariés, mais aussi l'ensemble des transferts reçus des gouvernements et des entreprises. Parmi ces transferts, mentionnons l'assurance-emploi et l'aide sociale, mais surtout les prestations de retraite du privé et du public, RRQ, pension fédérale, etc., très importantes. À cette somme, sont soustraits les transferts versés au gouvernement, notamment l'impôt sur le revenu et les taxes foncières, ce qui donne le revenu disponible. Qu'est-ce qui explique cette différence? Comme on peut s'y attendre, les Québécois reçoivent davantage de transferts des gouvernements qu'ailleurs, mais ils paient aussi plus d'impôts. Notez que le revenu disponible est calculé avant le paiement des dépenses et donc avant le prélèvement des taxes de vente. Ces taxes de vente sont plus élevées au Québec, 15 % qu'en Ontario, 13 % en Colombie-Britannique, 12 % ou en Alberta, 5 % Malgré tout, le pouvoir d'achat s'est accru nettement plus au Québec qu'ailleurs au Canada depuis 10-15 ans. Plus précisément, le revenu disponible par habitant au Québec a cru de 3,8 % par année entre 2015 et 2024, en moyenne, alors que l'inflation annuelle a été de 2,6 %. Ailleurs, la croissance annuelle a été de 2,8 %, soit un niveau comparable à l'inflation, 2,7 %. Bref, les Québécois se sont enrichis, tandis que la moyenne des autres Canadiens a stagné. Enfin, ce portrait explique pourquoi le taux d'épargne des Québécois augmente davantage qu'ailleurs au Canada. L'épargne est mesurée après avoir soustrait du revenu disponible les dépenses de consommation des ménages. Le taux d'épargne représente 9,2 % du revenu disponible au Québec au premier trimestre de 2025 contre 4,8 % ailleurs au Canada. Cet écart est l'un des plus importants depuis 4 décennies. Voilà le portrait de la situation. Cela dit, bien que les Québécois aient rejoint les autres Canadiens en matière de rémunération salariale, leur patrimoine demeure plus faible, notamment le patrimoine immobilier. Quoi de mieux que l'épargne pour combler cette différence, n'est-ce pas? Autre élément, la situation des Québécois, comme celle des Canadiens, se compare mal à bien des pays développés. C'est le prochain rattrapage à faire. C'était « Né pour un gros pain », un texte de Francis Vaille, paru le 14 juillet 2025 dans La Presse.